Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbe pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. Notre invité est Gilles Vaquier de la Baume, le grand spécialiste papa en France. Après un drame heureux, comme il le dit si bien, vécu avec sa première fille, Gilles décide de quitter sa profession de formateur en pharmacie pour se consacrer pleinement à la formation des futurs papas. En tant qu'amoureux de l'éducation bienveillante, il crée l'atelier du futur papa pour accompagner les papas dans ce changement de vie et les aider à trouver leur juste place auprès du nouveau-né et de la maman. Gilles est un vrai passionné et véhicule un discours positif pour l'épanouissement de toute la famille. N'hésitez pas à nous partager vos retours. Très bonne écoute. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Bonjour Gilles.
Bonjour Sylvie, bonjour Stéphanie.
Je me réjouis d'avance de cet échange avec vous, puisque nous allons parler du rôle du père de la grossesse jusqu'aux premières années de vie du bébé. Et en effet, votre implication sur le rôle du père en tant que facteur d'épanouissement est très important pour nous. Et nous avons hâte de découvrir cela et son rôle dans la famille. Donc avant que l'on parle de ce sujet crucial, est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de votre parcours ?
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. Et écoutez, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. Et donc, sur mon parcours, j'ai passé 9 ans, presque 10 ans dans l'industrie pharmaceutique. Et puis, ensuite, j'ai développé cette magnifique entité, donc Atelier du Futur Papa, depuis maintenant 7 ans.
Super. Et alors, comment avez-vous vécu vos premiers pas dans la parentalité ? Parce que si je ne me trompe pas, vous avez 2 enfants aujourd'hui.
Tout à fait. Tout à fait. J'ai 2 petites filles. Et écoutez, j'ai vécu ces premiers pas dans la parentalité avec, j'allais dire, autant de bonheur que d'interrogation. À l'époque, je n'avais pas encore. J'étais vierge de toute information. J'étais comme tous les papas standards, j'allais dire, qui rentrent un peu dans cette parentalité, un peu. Comme ça, sans vraiment de connaissances, et j'étais dans une joie immense, mais également aussi débordée d'interrogations et qui n'était pas verbalisée parce que chez les hommes, c'est un peu plus difficile d'en parler, dans son entourage, que ce soit professionnel ou que ce soit même amical. Cette question de la parentalité, c'est vraiment une flèche qui part au cœur, si j'ose dire, de la cible de la masculinité, parce que l'homme reste quelqu'un de fort, quelqu'un je suis l'an 70, donc on est de cette génération où un homme est fort, un homme ne pleure pas, un homme n'exprime pas non plus cette question de l'émotion. Donc, si vous voulez, j'ai gardé un peu ça pour moi. Et j'ai été pour mon premier enfant un peu dans un mode un peu d'adjoint, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'avais pas osé prendre réellement cette place parce que il fallait extérioriser tout ça et que c'était compliqué parce que ça allait à l'encontre de ce que j'avais reçu en étant jeune. Voilà, ce qui a fait ma construction au final. Et c'était difficile.
Et quel a été l'élément déclencheur qui vous a poussé à changer de profession et à vraiment vous dédier à ce sujet-là ?
Alors écoutez, c'est un mal pour un bien, mais c'est pire que ça, c'est-à-dire que c'est un drame heureux. On a vécu avec ma femme un drame avec notre enfant qui est tombé dans les escaliers à 9 mois. Ça nous a projeté dans une horreur absolue qui ensuite avec le temps s'est délité puisque au fur et à mesure que Donc, ma fille s'en est sortie sans séquelles, grâce à Dieu. C'est ce qui m'a, j'allais dire, projeté avec grand bonheur dans cette parentalité. Et au final, j'ai démarré un atelier Futur Papa pour permettre, qui était axé sur la santé, parce que c'était mon domaine de prédilection, l'industrie pharmaceutique. Et la sécurité, c'était le vécu de mon drame heureux, parce que quand on vit ce genre de choses, on essaye par la suite de faire en sorte de communiquer pour faire en sorte que ça n'arrive pas aux autres. Et c'était ma démarche principale, qui était vraiment sur ces deux axes. Et on est parti de quelque chose d'extrêmement négatif pour, au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, arriver à proposer donc une formule grand public pour et la plus large possible pour permettre à tous les futurs papas qui le souhaitent de rentrer dans cette parentalité avec des acquis, des connaissances, des outils, des astuces, des informations, des préparations qui leur permettent au final d'avoir une certaine sérénité face à cet événement. Ça a été un très difficile et long cheminement pour en arriver là, et l'élément déclencheur, c'est vraiment quelque chose d'absolument horrible qu'on a vécu, qui au final se transforme en quelque chose de magnifique aujourd'hui.
Super. Est-ce que vous pourriez justement nous décrire un peu plus en quoi consistent ces ateliers du Futur Papa ?
Oui, avec plaisir. Au final, comme je vous disais, j'ai commencé avec deux axes, la santé et la sécurité, et puis au final, on m'a sollicité plus de contenu en termes d'éducation, éducation positive, en termes de manipulation, en termes de méthode d'éveil, etc. Moi, je me suis formé à tout ça. Alors, j'ai eu la chance d'avoir le soutien rapidement d'Isabelle Filiosa, qui a d'ailleurs signé la préface de mon premier livre. Puis j'ai laissé tomber mon métier de formateur en pharmacie. Et puis, je me suis consacré à cet atelier Futur Papa. J'ai passé un CAP Petite Enfance. J'ai passé un certificat de formateur pour parents en discipline positive. Et puis, j'ai été glané des informations partout, puisque les ateliers se développant, j'ai rencontré de plus en plus de professionnels autour de moi. Et donc, je me suis nourri de toutes les informations que j'ai pu prendre de droite et de gauche, avec que des astuces importantes et qui permettent au final de changer. C'est que les petites choses qui permettent de changer le quotidien, parce que cette parentalité, elle est déjà pas facile à la base. Alors, comme qui plus est, quand on est embêté comme moi, et le mot est faible, par ce que l'on a pu vivre, c'est d'autant plus dur. Mais déjà, à la base, quand tout va bien, c'est pas facile. Et donc, je me suis nourri de tout ce que j'ai pu au travers de toutes les connaissances que j'ai pu faire dans ce nouveau monde dans lequel j'ai basculé, de la parentalité, une deuxième naissance vivant, j'allais dire, ça a été pour moi. Et ensuite, j'ai pu écrire mon deuxième livre qui s'appelle Mes premiers pas de papa. Et voilà, donc ça a été un sacré parcours pour au final aujourd'hui, pour répondre précisément à votre question, on a deux propositions, une proposition sur un atelier de 2 heures essentiellement pratico-pratique qui va concerner tous les gestes essentiels du quotidien, et une deuxième proposition qui est sur un atelier, une formation plutôt à la journée qui reprend cet atelier pratico-pratique et auquel on va ajouter l'éducation positive, la prévention des risques, les méthodes d'éveil, les stades de développement de l'enfant, la place et le rôle du père en pré- et post-natal. Voilà, c'est une vraie formation à la parentalité dédiée aux futurs papas, avec des groupes d'une vingtaine de papas que je fais les samedis, que je fais également aussi dans des maternités, dans des mairies. Voilà, moi je prends un immense plaisir à vivre ces moments d'échange et de partage très fort avec ces futurs et jeunes papas.
Oui, ça donne envie. Et justement, dans votre livre « Mes premiers pas de papa » aux éditions Solar, vous parlez de l'évolution de la figure paternelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Alors effectivement, merci, oui, on part de loin. comme je vous disais, moi je suis des années 70, donc le père était cette figure d'autorité. C'était le moment où on osait accorder à peine le droit à l'autonomie financière chez la femme. De mémoire. Si vous voulez, c'est un long cheminement. On est passé de ce père, qui était vraiment responsable de l'autorité de la finance au papa aujourd'hui protecteur. Et d'ailleurs, on est passé carrément du père au papa, puisque dans le père, c'est la filiation. Le père, le papa, c'est plus le côté émotionnel. Et au final, ben, c'est tant mieux ainsi. C'est-à-dire que il y avait ce frein à basculer du côté de l'accompagnement, l'accompagnement émotionnel, avec toute comment dirais-je, la faiblesse qu'à l'époque ça pouvait représenter, alors qu'aujourd'hui, et heureusement, c'est vécu comme quelque chose de, comment dirais-je, de positif, de voir un papa pousser une poussette ou se mettre au même niveau que son enfant pour communiquer avec lui. Et je trouve ça vraiment formidable. Donc on part de très loin avec un rôle qui était vraiment le pater familias, qui était vraiment ce rôle donc du père qui s'occupait de l'autorité et de la finance, et qui au final autorité, il faut entendre coup par autorité, parce que c'était normal à l'époque, hein. Et puis aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que eh bien on peut arriver à avoir une relation avec son enfant tout en étant un homme, à lui accorder la place qui est la sienne pour les émotions, sans pour autant gagner en faiblesse, j'allais dire, ou y perdre en testostérone. Bien au contraire, et c'est tant mieux. Donc ces nouveaux papas s'inscrivent dans cette lignée de ces hommes qui ne veulent pas passer à côté de ce magnifique lien qu'ils peuvent construire avec leurs enfants. Et c'est vrai que c'est pas facile pour eux. Moi, j'ai été projeté, j'ai appris. Mais c'est pas facile pour eux, comment dirais-je, parce qu'ils n'ont aucun modèle vraiment sur lequel s'appuyer, et c'est très difficile d'arriver à reproduire ce que l'on n'a pas vécu. Donc c'est aussi la rencontre de l'atelier du futur papa se fait à ce moment-là pour justement essayer d'avoir une philosophie comportementale au travers de son enfant, mais aussi vis-à-vis de sa famille en général. Parce que l'implication du père, c'est un puissant facteur d'épanouissement familial. Et souvent, je me plais à dire tout bêtement que c'est comme une table à trois pieds. Vous enlevez un pied, la table ne viendra jamais. C'est aussi simple que ça. Et qu'on ne peut pas retarder l'implication du père dans cette sphère familiale. On ne peut pas avoir un duo maman-bébé d'un côté et un adjoint de l'autre, comme j'ai pu vous le dire au départ. Et au contraire, il faut vraiment qu'il y ait cette notion d'égalité dans l'investissement, dans la disponibilité temporelle également aussi, vis-à-vis de l'enfant. Et ce papa, au final, il a un rôle très important vis-à-vis de l'enfant, au même titre qu'il a un rôle aussi très important vis-à-vis de la future ou de la jeune maman. Et on se rend compte qu'avec le temps qui passe, eh bien, il y a les pouvoirs invisibles, insoupçonnés du rôle de père qui commence à remonter à la surface. Et on se rend compte qu'un père, tout simplement, qui va être à l'accouchement, eh bien, ça va être autant d'ocytocine en plus pour la maman, qui va favoriser les contractions, qui va favoriser l'accouchement. En postnatal, c'est pareil, il y a de très nombreux avantages donc à être un papa impliqué. Et puis surtout, moi, mon cheval de bataille, c'est cette question de la dynamique de la vie de famille. On peut pas avoir un duo maman-bébé d'un côté et un papa de l'autre qui, lui, serait les bras ballants dans le canapé et à qui on dirait, à 8 mois, quand l'enfant commence à marcher à 4 pattes, viens t'en occuper et dis-lui non. Il faut vraiment qu'il y ait cette notion d'équilibre qui se fasse donc dans cette question de la dynamique, hein, qui revient le plus tôt possible, et il faut faire coéquipe le plus tôt possible pour cette question de la dynamique. Et ça ne peut pas se faire s'il y en a un qui est sur le côté et l'autre qui est totalement imbécile. Alors ça, on n'y peut rien, parce qu'il y a déjà ce décalage de par l'investissement qui est possible de faire pour la maman vis-à-vis de son enfant, étant donné qu'elle a 2 mois et demi donc de congé en postnatal que le papa n'a pas. Donc évidemment, elle a un gain en relationnel que le papa n'a pas. Et au final, il faut rattraper ça. Et des fois, je leur dis au papa, c'est pas facile, mais il faut le rattraper le soir quand on rentre du travail. Là, pour l'instant, on est encore à 14 jours. On rentre du travail. Je sais qu'il y a la fatigue du jour, mais c'est pas facile. Mais il faut, participer à tout ce que l'on peut pour être en lien avec son enfant, pour créer ce lien. Parce que on a déjà ce déficit temporel et j'allais dire la maman a, si j'ose dire, un crédit d'office, et c'est tant mieux puisque c'est elle qui l'a mis au monde, et il faudrait pas rester sur le côté et puis prendre sa place trop tard. Il faut vraiment s'investir au plus tôt et au plus fort, parce que le temps de la parentalité, c'est le temps de la rapidité, Et au plus tôt il va rentrer dans cette parentalité avec des connaissances que, qu'il peut acquérir au travers de l'atelier du futur papa, et au plus tôt il va être armé pour cette nouvelle vie et puis diffuser, comment dirais-je, des bonnes ondes autour de lui qui sont fondamentales pour le démarrage de cette vie de famille. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le bébé égale bonheur, effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a aussi la partie des difficultés. Et il ne faut pas compter que sur la beauté du moment, si j'ose dire, pour faire en sorte que ça, pour croire que ça va bien se passer. Il y a aussi des connaissances à avoir. Et l'enfant, ce n'est pas la variable d'ajustement de vos connaissances. C'est vous, justement, qui venez acquérir des connaissances en amont pour pouvoir s'adapter en fonction de son stade de développement et répondre aux besoins qui évoluent par rapport à son développement. Voilà, tout simplement. Au même titre qu'on le ferait, d'ailleurs, Stéphanie, pour d'autres activités dans notre vie quotidienne. Personne n'est surpris quand vous avez un nouveau logiciel dans une société, qu'on vous fasse une formation ou qu'on vous... Voilà, c'est un éveil à la connaissance. Ça m'apparaît fondamental, qui plus est, pour la parentalité, où on sait que ben il y a un couple sur quatre qui se sépare l'année qui suit l'arrivée de l'enfant. On sait que en France 85% des parents utilisent la violence éducative ordinaire comme outil éducatif. On sait que on sait pas mal de chiffres. On sait que en termes d'accidents domestiques, c'est 20 000 morts par an. C'est absolument comment dirais-je, voilà, il y a pas de mots. Et comment dire, j'aurai pas de mots assez fort. Et on sait que ça touche principalement les 0-6 ans. Donc tout ça, si on n'a pas cet éveil en préalable, en fait, au final, comme le temps passe vite, on arrive à s'ajuster au fur et à mesure des stades de développement, mais on est souvent en retard parce que le temps de comprendre une période, l'enfant est déjà passé à une autre. C'est ça la problématique, d'où l'intérêt d'anticiper et de venir acquérir des connaissances en amont de cet heureux événement.
Oui. Et justement, est-ce que vous pourriez nous parler du rôle du papa par rapport à la maman ?
Oui, avec grand plaisir, bien sûr. Alors le papa, comme je vous le disais, il y a beaucoup, de mon point de vue, parce que le nourrisson dort beaucoup évidemment, et la maman l'allait. Donc le temps d'éveil est très faible. Donc, on va dire en prénatal, il y a déjà donc moult activités à faire, mais en postnatal, vraiment apporter un soutien à la maman encore plus fort en postnatal qu'en prénatal, ça m'apparaît important, et de surtout se dire que au final, ce qui est périphérique est aussi important que les actions que je peux faire directement pour ma conjointe ou pour mon bébé. Ça peut paraître simple à dire, alors je vais être plus concret. Ça va être, eh bien, par exemple, participer aux tâches, voilà, du quotidien de la maison. Eh bien, la maman, elle en a vraiment besoin. Prendre soin d'elle en lui faisant des petits plats, être communiquer avec son nourrisson même s'il dort, hein, ne pas hésiter donc à participer à tous les gestes du quotidien, même si on n'a pas forcément envie, quand on rentre du travail évidemment, d'aller faire la vaisselle et d'aller chercher son enfant. Et c'est une période pourtant où il va falloir, comment dirais-je, bien doubler son investissement, parce que nous les hommes, on aurait tendance à être dans la résistance et à sous-estimer très souvent les engagements. Et là, au contraire, il faut débloquer ces vannes-là et ne pas sous-estimer l'engagement que ça nécessite. Et donc, ce papa, c'est un puissant facteur d'épanouissement familial. Avec tout ce qui est en périphérique autour de lui, il faut qu'il s'en saisisse pour, ça peut être prendre rendez-vous pour le prochain rendez-vous pour le PIA, ça peut être s'intéresser, ça peut être aller louer un PSBB à la pharmacie, ça peut être s'occuper de tout ce qui est, de tout ce qui peut aider la maman dans le cadre de son allaitement, et Dieu sait qu'il y a plein de petites choses comme ça. Voilà, il y a ces moult petites choses au quotidien qui apparaissent anodines, mais qui au final ont une importance vraiment, vraiment capitale. Et la maman aussi, eh bien, quand elle voit qu'elle a son conjoint qui est vraiment investi, qui participe, hein, à tout ce qui est directement vis-à-vis de l'enfant, direct, qui la concerne directement, ou qui concerne aussi le périphérique, la vie de famille autour, eh bien, elle s'en sent que plus sereine. Et comme on sait que l'enfant est une éponge émotionnelle, eh bien, c'est une question, voilà, on revient à cette dynamique. C'est une question de sérénité qui va se répandre. Et on démarre du bon pied. Et on avance et on progresse. Et il y a une première étape de 0-6 mois. Et ensuite, on va passer à autre chose. Mais il faut pas rater cette première étape. Voilà, ça m'apparaît fondamental que le père prenne conscience que le niveau d'engagement, il est beaucoup, beaucoup plus haut que ce qu'il croit. Donc, il ne faut pas qu'il le néglige et qu'il soit dans la résistance. Bien au contraire, il faut qu'il soit dans un engagement plein et entier, au plus tôt et au plus fort, comme je me plais souvent à leur dire.
Oui. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans votre livre, c'est que vous mentionnez aussi l'importance de cultiver le couple aussi pour faire face à ce changement de vie?
Alors, en post-natal, tout à fait, Stéphanie, c'est vraiment de dire que dans le post-natal, moi, je dis aux papas qui viennent à l'atelier, je vous le dis maintenant, j'allais dire, intéressez-vous, la locomotive du train de la famille, c'est l'entité du couple. Et la première des choses dont qu'il faut nourrir en post-natal, ça va être d'abord de renourrir son couple, de refaire couple. J'allais dire, parce que maintenant on est un couple parental, et reprendre du temps exclusif avec sa conjointe, ça fait partie des premières actions en post-natal. Si on a une personne de confiance à qui on peut confier son enfant et refaire couple, j'allais dire, rapidement, c'est très bien. Moi, je leur dis aussi souvent ce conseil que je vous donne pour tous les auditeurs qui vont écouter ce podcast demain. Eh bien, c'est d'écrire un mot de naissance à votre conjointe. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est fort, qui est puissant. Ça peut être 4 lignes, ça peut être 4 pages. Peu importe, écrivez-lui un mot de naissance. Refaites couple le plus tôt possible. Prenez du temps exclusif avec la maman. Soutenez la maman en post-natal. Et parce qu'on a vite fait de rentrer à la maison et de se dire « qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ?» C'est un petit peu toujours la même chose. Hein. « Ben, je l'ai changé 4 fois ». Et j'ai donné 6 tétés, par exemple. Bon, voilà. Et puis, au contraire, il faut poser des questions. Intéressez-vous à la maman, intéressez-vous à ce qu'elle a fait. Voilà, soyez moteur donc de l'équilibre de la maman en postnatal, parce qu'il y a une chute brutale d'hormones chez la maman, il y a une chute brutale d'hormones aussi chez le papa. Il y a une perte de testostérone, donc une perte de désir, une variabilité du désir sexuel. Et Dieu sait que ça fait partie aussi des piliers de l'entité du couple. Et de ce fait, eh bien, ça va vaciller. Donc, c'est pas grave. Les choses vont revenir après 6 mois dans l'ordre. Tout ça va se remettre en place. Mais cette variabilité du désir, elle aura tendance effectivement à secouer un peu cette entité du couple qui doit reprendre de nouveaux repères au final, puisque c'est un nouveau couple qui l'est également aussi. Et ça, faut pas le négliger. C'est pas la continuité du couple d'avant, puisque la notion de temps n'est plus la même. Il faut pas non plus faire focus. C'est ce que j'ai pu remarquer moi chez les couples qui ont pu avoir des difficultés en postnatal, de faire focus sur le nourrisson, alors que j'allais dire le nourrisson, il a besoin de deux besoins, c'est de l'amour et du lait, et que la maman peut très bien l'amener. Donc plus on va avoir un papa soutenant en postnatal, et bien on sait que ça va donner l'ocytocine. L'ocytocine, on en a parlé tout à l'heure pour la maternité, parce que ça va aider pour les contractions. Et bien là, ça va aider pour l'allaitement, par exemple, si la maman a choisi ce mode de nutrition. Donc au final, on voit bien qu'il y a énormément de pouvoirs du papa qu'on pourrait négliger parce qu'on ne les voit pas et qui sont insoupçonnés, mais qui au final prendre une vraie tangente à cette entité de la famille, parce que si on néglige, on peut vite se retrouver donc sur la même route, parce qu'on partage les mêmes choses mais dans des véhicules qui sont différents. C'est le risque qu'on peut prendre, et du coup il faut pas négliger, parce que nous les hommes on a tendance donc à négliger ça d'un revers de la main, à dire qu'est-ce que c'est pas l'arrivée d'un enfant qui peut bousculer. Si ça bouscule, parce que ça bouscule nos habitudes, parce que c'est un nouveau couple, parce qu'on voit son conjoint changer, évoluer sous ses yeux, parce qu'il y a la variabilité du désir sexuel, parce que c'est de nouveaux repères, et tout, parce qu'on sait pas comment non plus gérer les cris et les pleurs, et que les cris et les pleurs ça apporte du stress, c'est un stress supplémentaire auquel on n'avait pas prévu de faire face, etc. Et il faut s'accorder pour les nouveaux critères de cette nouvelle vie ensemble. Donc ça demande un niveau de communication supérieur. Donc au final, ça demande beaucoup plus que ce qu'on croyait.
Et ce que j'aime bien dans votre livre, c'est que vous mentionnez les erreurs que font 95% des papas. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, le papa, d'une manière générale, donc j'ai plus la phrase que j'avais écrite là-dessus précisément. Stéphanie, peut-être que vous allez pouvoir me dire la conclusion que j'en avais dit, mais c'était vraiment de faire focus sur le nourrisson et au final de pas prioriser la conjointe, alors qu'au final en postnatal, on sait que un nourrisson c'est 1h30 de temps d'éveil, c'est de l'amour régulé, et puis que on peut communiquer avec lui même s'il dort, on peut participer dès qu'il y a un temps d'éveil, on peut soutenir la maman parce que elle va voir qu'elle a un conjoint qui est impliqué, donc ça va la rassurer, ça va la mettre dans une dynamique positive, mais il faut vraiment apporter énormément d'attention à sa conjointe, et l'erreur qu'on peut faire, c'est de faire focus sur le nourrisson, alors qu'au final, en postnatal, il faut apporter plus d'intérêt, d'attention, de petites attentions à sa conjointe en postnatal qu'en prénatal. C'est malheureusement l'accouchement, on croit que c'est là que tout s'arrête, alors que on se dit enfin c'est fini. Oui, c'est fini pour la maman parce qu'elle a tellement parlé de douleur d'accouchement qu'elle était focus sur cet accouchement. Ça y est, c'est fini, mais c'est la parentalité qui commence. Et là, c'est autre chose. Là, on rentre dans une nouvelle bulle de vie. Et c'est quelque chose qui se vit à deux. C'est cette notion de coéquipe qui est vraiment essentielle. Et c'est pas chacun d'un côté qui fait les choses. Il faut, comment dirais-je, essayer, dans la mesure du possible, évidemment, d'essayer de passer un pacte, si j'ose dire, de non-agressivité pour tout ce qui concerne l'enfant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, on peut avoir des remords, des colères, des rancœurs l'un vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, du couple que l'on formait avant, et ça, ça peut être légitime parce que chacun a le droit d'avoir un reproche à faire à l'autre. Par contre, essayer de faire corps, donc équipe, quand là, ça va concerner l'intérêt de notre enfant. Et c'est une grande difficulté d'arriver à mettre une étanchéité entre cet ancien et ce nouveau couple, ce couple parental qui va s'occuper de son enfant, et cet ancien couple, justement, de deux entités, chacune, qui ont le droit d'avoir des reproches de l'un vis-à-vis de l'autre, évidemment, puisque le rapport à l'autre est différent, finalement. Le rapport au conjoint qu'on a connu jusqu'à présent n'est plus le même. Donc là aussi, il va falloir, c'est de nouvelles bases sur la vie du quotidien, c'est de nouvelles bases sur la relation à son conjoint. Donc, ça fait beaucoup de nouvelles choses, tout ça. Et pour un homme, des fois ça peut faire beaucoup, surtout si on n'est pas préparé, et ça peut faire peur. Mais c'est ce qui fait que je pense parce que c'est pas l'amour qui disparaît du jour au lendemain, et c'est ce qui fait que il y a beaucoup de couples qui se séparent. Je pense que c'est plus la peur de la prise de conscience, en fait, de toute cette implication d'une seconde à l'autre que ça va demander. D'un jour à l'autre, on se dit, oh là là, c'est vrai qu'on voit la montagne, si vous voulez, qu'ils décident devant. Et c'est ce qui se passe, moi, quand je les ai à l'atelier du futur papa. Au fur et à mesure, ils sont ébaubis de voir que un avenir se décide. Une montagne, je leur montre la montagne qu'ils vont gravir, parce qu'au début, ils savent qu'ils vont aller vers quelque chose, mais c'est l'inconnu. Tandis que là, on montre la grandeur et on décide le chemin. Et du coup, je vois beaucoup de visages. Ah oui, et au fur et à mesure, c'est cette prise de conscience qui est intéressante donc dans la journée, et j'associe à ça tout ce qu'il est possible de prendre donc comme outil, comme moyen pour arriver à gravir cette montagne de la meilleure des façons, parce que ça reste un événement merveilleux, mais ça reste aussi quand même donc des difficultés personnelles, des difficultés relationnelles, des difficultés donc par rapport à la fatigue et par rapport à l'ancien couple, de savoir faire coéquipe. Voilà, il y a quand même beaucoup de comment dirais-je, voilà, de mouvements et de pièges aussi dans cette nouvelle vie, parce que le cri, c'est le stress, c'est l'attaque, la fatigue, c'est du stress également aussi, parce que donc tout ce qui va entourer ce nouveau bonheur, eh bien, il compte autant que ce bonheur lui-même. Donc c'est vraiment à ses pairs d'insuffler cette dynamique, voilà, d'être moteur de cette positivité du postnatal en étant tourné donc vers leur conjointe, principalement au démarrage de cette nouvelle vie, et en associant la fatigue de la journée et également aussi les manipulations vis-à-vis de leur enfant. Voilà, c'est-à-dire qu'au final, il y a beaucoup de travail pour le papa en postnatal. Alors qu'on pourrait croire que un enfant, avant, on considérait qu'un enfant, c'était un tube digestif, tout simplement, il suffisait de nourrir. Aujourd'hui, le père, c'est pas facile, parce qu'il doit s'occuper de son travail, s'occuper de sa conjointe et s'occuper en même temps de son enfant, et trouver un équilibre dans cette nouvelle vie. Et ça, c'est pas donné comme ça à tout le monde sans connaissance. Voilà.
Oui, bien sûr. Et j'ai une autre question qui m'est venue. J'aimerais bien que vous nous parliez du congé paternité. Alors, je connais un petit peu, à mon avis, votre point de vue à ce sujet, mais comme vous l'avez mentionné, en France, il est quand même assez réduit. Est-ce que vous pourriez nous partager votre opinion à ce sujet ?
Bien sûr, merci, avec plaisir. Écoutez, tout simplement, ce congé paternité, c'est un décalage par rapport à ce qui est proposé à la maman, qui fait que ben, celui qui va passer le plus de temps avec l'enfant va devenir la figure d'attachement. Donc incontestablement, 2 mois et demi contre 14 jours, c'est la maman qui va devenir la figure d'attachement. Et ça aurait tendance à mettre le papa de côté et à renforcer le duo maman-bébé. Et au final, ce papa, on va en avoir besoin, parce que comme je disais tout à l'heure, un jour, on va lui dire, eh ben, tiens, va le voir, dis-lui non, parce qu'il part à quatre pattes dans la pièce d'à côté. Et le premier rapport avec l'enfant, ce sera un non. Ce sera pas sur quelque chose de positif. Et on sait qu'il faut construire une relation avec l'enfant pour arriver à l'amener plus tard où on veut, de la manière la plus douce possible. Un enfant ne vous écoute pas sous prétexte que vous êtes son père ou que vous êtes sa mère. Donc, il y a tout un travail de tissage relationnel à faire en amont pour faire en sorte que, eh bien, l'enfant, par la suite, veuille bien nous reconnaître aussi comme sa figure d'attachement et nous écouter en tant que tel. Et ça, donc, on part avec une espèce de discrédit temporel en amont de ça. Et de ce fait, eh bien, ça crée forcément une sorte de décalage qui fait que le papa, il est déficitaire. Et c'est pour ça qu'il doit le rattraper, comme je vous disais, en fin de journée, le soir, malgré la fatigue, pour, dans ce premier espace-temps des 0-6 mois, essayer de se caler un peu au même niveau de la maman et insuffler au nourrisson qui est dans une triade et pas dans un duo. Ça, c'est fondamental. Et que c'est pas la joint service, comme on le disait tout à l'heure. Et qu'il y a un papa qui s'en occupe, il y a une maman qui s'en occupe, il y a deux parents qui s'en... Il y a un coparent, si j'ose dire, et que... parce que lui... lui, il a besoin d'amour et de lait, sa maman lui apporte. Donc, au final, est-ce qu'il aurait besoin de quelqu'un d'autre? Là, pour l'instant, non, personne. Sa maman s'en occupe très bien. Donc, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien, donc, qu'au plus tôt, hein, puisqu'il y a ce stade de développement où à 8 mois, il prend conscience qu'il est une personne pleine et entière, ben, qu'au plus tôt, eh bien, il puisse, être dans cette triade. Voilà. Et ça participe à cet équilibre aussi de la vie de famille, que l'enfant ne veuille pas rester le désir exclusif de sa maman. Voilà. Et que le papa, s'il voit la maman tout le temps avec dans ce duo, comment dirais-je, maman-bébé, eh bien, au final, il la voit plus comme une maman que comme une conjointe. Donc, c'est normal qu'après, ça ait une conséquence sur l'entité du couple. Évidemment. Voilà.
Oui, bien sûr. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'on voit quand même de grandes disparités entre les différents pays européens à ce sujet.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on regarde un petit peu au nord, donc on est vraiment bon. Allez, ça a avancé récemment et on part vraiment de loin. Bon, voilà, ça évolue.
Oui, oui, oui.
Ça évolue et c'est tant mieux. À la demande des pères qui sont de plus en plus nombreux et qui maintenant ont bien compris que s'occuper de sa conjointe c'était fondamental, passer à côté de cette vie de famille c'était plus possible. L'enfant c'était pas acceptable, que c'était un vrai projet de vie et que s'investir ce n'était pas s'affaiblir. Voilà. Et on n'y perdait pas en testostérone, bien au contraire. Donc de ce fait, maintenant que tout ça a été acté d'une manière générale, si j'ose dire, eh bien, il faut passer à la phase 2. Et je pense qu'il faudrait, pour ma part, pour répondre à votre question très concrètement, qu'il y ait un congé à égalité au moins de 3 mois commun aux deux parents en postnatal pour prendre ses premières marques, parce que ben, c'est une nouvelle vie. Et que la vie à 3, c'est pas la vie à 2, qui plus est avec un bébé qui vous réveille toutes les 3 heures, et parce que bon, là, on est dans le cas de figure où tout va bien, mais il y a des bébés qui, comment dirais-je, il y a des bébés aux besoins intenses, qui vont demander aux parents une disponibilité supérieure à la moyenne, si j'ose dire. Voilà, il y a quand même, des repères qu'il faut identifier. Il faut que, chacun puisse. Il y a cette question de la paternalisation et de la maternalisation, donc que chacun puisse, voir en l'autre les côtés positifs de la nouvelle personne qu'il est devenu et les souligner. Parce que on devient père grâce à la maman qui va souligner la nouvelle personne que vous êtes devenu, dans le caractère, dans la manière de faire, dans la manipulation, dans la gestuelle et vice versa. C'est-à-dire qu'on va d'abord s'approprier le rôle psychologiquement avant de pouvoir le faire physiquement. Et ça, c'est important d'être ensemble pour, pouvoir repérer chez l'autre, donc quelles sont ces nouvelles compétences, si j'ose dire, positives, pour les souligner de manière à ce qu'ils puissent les approprier pour les répéter et ainsi créer une dynamique positive. Voilà. Et, il y a un décalage et du coup, ça crée un déficit chez le papa, qui doit le rattraper aujourd'hui, doit courir pour le rattraper en post-natal, et c'est pas évident pour lui, parce que on lui demande aussi d'être performant dans l'entreprise. L'entreprise qui souvent, mais de mieux en mieux encore, mais qui souvent aussi peut-être n'est pas intéressée à cette question de la parentalité, encore moins de la paternité, et qui comprendrait pas un homme qui aurait envie de partir une heure plus tôt, ou qui pourrait partir, qui se le permet, ou qui va demander comment dirais-je, des RT à placer, des RTT, peu importe le moyen, pour pouvoir s'occuper de sa famille. Ça reste encore parfois mal vu, mal vécu, où on dit ben tiens, c'est elle qui est enceinte, c'est pas toi, par exemple. Déjà ça commence à donc voilà un petit peu tout cet environnement qui est pas facile.
Non, c'est pas simple. Alors, je sais que Sylvie a mille choses à vous dire, donc je vais la laisser terminer l'interview, parce qu'on est déjà presque à la fin, et je vais la laisser partager son point de vue sur ce partage passionnant.
Merci Sylvie. Merci.
Ah oui, en effet, moi je partage complètement le point de vue de Gilles, que je suis depuis qu'il a créé ses ateliers, et je trouve ça vraiment formidable, parce qu'on a fait énormément pour les mamans. On a parlé beaucoup, on a écrit beaucoup de livres sur les mamans, mais il y avait vraiment pas grand-chose qui existait pour les papas. Et je vois aujourd'hui avec bonheur que dans nos écoles notamment, les papas prennent un rôle de plus en plus important. Et j'ai constaté et je constate encore aujourd'hui l'importance pour un enfant d'avoir ses deux parents qui s'occupent de lui, parce qu'en fait chacun apporte sa vision des choses, sa sensibilité, ce qu'il est. Et je trouve que vraiment c'est là la richesse pour un enfant d'avoir un papa et une maman, c'est que chacun a quelque chose à apporter à l'enfant, et c'est ce qui le rend encore plus équilibré, encore plus épanoui, etc. Et c'est vrai que, comme dit Gilles, quand le papa découvre tout d'un coup qu'il a un enfant à un an, parce qu'il commence à marcher, avant on entendait pas mal d'hommes qui disaient « ah oui, moi le bébé ça m'intéresse pas », et je trouvais ça très 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 compliqué pour le papa et pour le bébé et pour la maman et pour tout le monde, et aussi le fait, comme il dit, qu'il se créait du coup un couple mère-enfant, et le père était mis de côté, et il avait pas vraiment de place, et c'était un peu même comme la personne qui dérangeait. Et je trouve que c'est formidable de faire des ateliers comme ça pour aider les pères justement à mieux comprendre, parce que le père il porte pas l'enfant, donc il vit pas du tout les mêmes choses. Donc je trouve que c'est vraiment fondamental ce rôle du père vis-à-vis de la maman, et aussi vis-à-vis de la maman, qui souvent c'est pas si simple d'être une maman, de devenir une maman, et le papa c'est sûr a un rôle très important à jouer, et il faut l'aider dans ce rôle à mieux comprendre sa place et à mieux comprendre ce qu'il peut apporter à la maman, et puis aussi vis-à-vis de l'enfant, parce que justement je trouve que le lien il doit se faire dès le début, et que pour ça c'est pareil, comme il a pas porté l'enfant, et bien c'est pas toujours facile de trouver cette place. Et donc vraiment moi je trouve formidable tout ce que fait Gilles, et je trouve formidable aussi ce rôle que prennent les papas, parce que moi qui suis encore plus vieille que Gilles, j'étais d'une génération où les papas ils allaient travailler, et puis ils avaient l'autorité, souvent on disait tu vas voir ce que va dire ton père, et c'était le seul rôle qu'ils avaient. Et donc voilà, moi je trouve ça vraiment formidable ce nouveau rôle des pères. C'est vrai que le congé de paternité devrait être plus long, parce que la maman elle est tout le temps là, et que lui il rentre après une journée de travail, et que c'est pas facile. Mais vraiment bon, je pense qu'on est sur le bon chemin. Moi quand je vois à l'école le nombre de papas maintenant qui amènent les enfants à l'école, qui sont très très affectueux, beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse, beaucoup un rôle vraiment très très proche les uns envers les autres, et même le soir c'est beaucoup beaucoup plus de papas qu'avant. Quand on fait des sorties, avant quand il y avait un papa, toutes les mamans le regardaient, oh là là, mais comment ça se fait que celui-là il peut être là, alors qu'aujourd'hui on a énormément de papas qui accompagnent aux sorties, et on a énormément, j'ai aussi de plus en plus de papas qui appellent eux pour l'inscription de leurs enfants, alors qu'avant c'était que des mamans. Et je trouve, on voit vraiment ce rôle que prennent les papas, et ça je trouve ça formidable, et je trouve que pour les enfants c'est vraiment extraordinaire. Mais comme disait Gilles, ils ont pas beaucoup de modèles, puisque les générations d'avant étaient très différentes, et il faut jamais hésiter à se former justement, et parce que c'est pas facile. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis pour terminer, je vais poser une dernière question à Gilles justement. Quels sont alors vos futurs projets pour aider encore plus les papas dans la famille?
Ah, c'est adorable. Écoutez, j'ai un magnifique projet qui va sortir en octobre de cette année. Bon, ça reste à comment dirais-je, à confirmer donc avec l'éditeur, puisqu'on va donc avec le docteur Michel Canamera écrire un livre qui va s'intituler La grossesse côté papa.
Ah super.
Et qui va reprendre donc mois par mois cette place du père pour accompagner la maman donc pendant cette grossesse. Voilà, c'est un beau grand projet qu'on vient de remettre là ce matin pour être très précis avec vous. Voilà, donc c'est très riche parce qu'il y a la partie, c'est pas sous forme de guide parce que ça a déjà été fait 100 fois, c'est sous forme de correspondance. C'est pour porter à la réflexion plus que pour apporter du contenu physiopathologique sur cette période de la grossesse. Donc voilà, c'était ça l'idée. Il y a le profil de Michel Canamera qui est gynécologue, sexologue, et avec son expérience, et puis mon expérience de consultant en parentalité. Voilà, c'est sous forme d'échange, c'est très très riche. Voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire ce projet. Ça sort au mois d'octobre. La grossesse côté papa, on est parti pour ce titre, je pense. Voilà, ou du côté des hommes. Donc voilà le gros projet de la fin d'année. Voilà.
Ah ben, je trouve ça assez formidable parce que ça aussi c'est un sujet qui est compliqué et qui est important que le papa soit très présent aussi, justement pour pas découvrir qu'il a un enfant juste à la naissance. Et qu'ils puissent partager avec la maman. Donc, vraiment, c'est formidable.
Physiquement, psychologiquement, physiologiquement, il ne se passe rien pour nous. Alors, on est bien faire comme ça d'une seconde à l'autre quand on nous met le bébé dans les bras. Et voilà, il vaut mieux, plus on a de préparation, plus on a d'informations, au final, mieux on se porte. Voilà.
Oui, puis la maman, elle change beaucoup aussi physiquement, etc. Donc, c'est bien aussi que le papa soit accompagné là-dedans. Donc vraiment merci beaucoup Gilles. Moi j'étais ravie déjà quand Stéphanie m'a dit de cette interview et je suis ravie de vous écouter. Je vous écouterai bien plus longtemps, mais on est obligé de s'arrêter. Donc peut-être une autre fois, et bravo pour tout ce que vous faites et merci beaucoup beaucoup.
Merci Sylvie.
Merci beaucoup.
Merci Stéphanie.
Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclaibes.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.